Fin de semaine de Grand Prix à Montréal. On a parlé des terrasses fermées. On a parlé du show de Pitbull annulé. On n'a pas trop rentré dans les détails de la course, mais selon plusieurs personnes, meilleur Grand Prix de la saison. C'est le fun d'entendre ça chez nous, ici, à Montréal. On va en jaser avec notre chum Tom Perrin. Tom qui est bien sûr en direct de la France. Comment ça va, Tom?
Super bien. Et tu disais meilleur Grand Prix de la saison et potentiellement meilleur dépassement de la saison aussi qu'on aurait vu sur le circuit. Fait que carton plein pour le Grand Prix de Montréal cette saison.
OK, ça c'est malheur. OK, on va en jaser dans les prochaines secondes. Je voulais juste t'écœurer un petit peu et jaser de foot et te dire que l'équipe canadienne a fait match nul avec l'équipe française. T'en penses quoi?
Bah, c'est ce qu'on fait en général avant une grosse compétition. On met les moins bons joueurs juste pour voir de quoi ils sont capables stratégiquement. Mais en général, on n'aligne jamais la grosse équipe.
Donc, tu parles de l'équipe canadienne.
Exactement, tout à fait. Étant donné que le Canada est une grosse nation, elle peut se permettre de bencher ses gros joueurs.
Non, mais quand même, un match positif quand même pour la formation canadienne avec un match nul contre la France. Mbappé a trouvé le terrain aussi, puis solide arrêt du gardien canadien là, vers la fin du match.
Ouais, puis c'est le fun pour de vrai, c'est encourageant. On l'a vu déjà lors de la dernière Coupe du Monde, le Canada s'améliore d'année en année. On commence à avoir un bassin de joueurs en plus de ça, même en général au Canada, qui est de plus en plus gros. Donc c'est cool, ça annonce un beau futur. Puis c'est sûr que même si je suis français, je commence à être un beau Canadien d'adoption, fait que je commence à regarder ça sérieusement.
J'avoue. Et t'as regardé de loin, c'est drôle parce que l'année dernière, bien évidemment, t'étais ici et t'as assisté au Grand Prix du Canada à Montréal. Là, tu le regardais de loin. Donc, je pense que t'as déjà affiché tes couleurs. Qu'est-ce que tu as pensé du Grand Prix? T'as aimé, hein?
Clairement, c'était un super Grand Prix. Même la presse internationale s'accorde pour dire que faudrait peut-être réfléchir à faire 24 Grands Prix du Canada dans une saison. Parce que pour de vrai, c'était vraiment le fun. Tout le Grand Prix a été le fun. Alors c'est sûr que les conditions météo ont aidé. On a eu des qualifications où on attendait un petit peu la pluie tout le long. Donc ça rajoute un petit quelque chose. Après, derrière ça, la course, on a eu de la pluie avant le Grand Prix. Donc ils sont partis sur piste mouillée, ça a séché. On a eu une petite averse pour essayer de brasser les cartes. Avec la pluie, on a donc un accident qui crée une voiture de sécurité. Donc, on a eu tous les éléments en place qui se sont tous alignés petit à petit pour qu'on ait toujours quelque chose qui se passe et toujours quelque chose à suivre. Et en plus de ça, on a eu trois personnes différentes qui ont été en tête du Grand Prix. Donc, forcément, c'est génial.
À la base, Montréal, est-ce que c'est un circuit qui est reconnu historiquement pour donner des bons Grands Prix ou c'est juste cette année que tout était aligné?
En général, à chaque année, on arrive à avoir un bon Grand Prix. C'est pas nouveau. En plus, en fait, le circuit, il est très, très bête et méchant. C'est ligne droite, chicane. Donc, tout est là pour qu'on ait des F1 qui réaccélèrent, puis qui freinent, et donc avoir des possibilités de dépassement. Quasiment, chaque chicane est une possibilité de dépassement. Et c'est ça. On l'a vu, de toute façon, lors du Grand Prix, les dépassements se sont faits un peu partout sur le circuit, et pas seulement en bout de ligne droite. Donc, ça fait du bien.
Hey, Tom. Tu le sais, je regarde ça du coin de l'œil. Hier, j'ai regardé une bonne partie quand même du Grand Prix hier après-midi. Et moi qui ne suis pas vraiment ça, j'avais un petit plaisir fou. Des fois, je me sentais un petit peu mal. Mais de voir les voitures glisser à gauche, puis déraper, puis manquer des virages. Pour quelqu'un qui trippe vraiment Formule 1, est-ce que c'est un bon spectacle ça aussi? As-tu aimé la pluie ou pour toi, tu aurais préféré une piste qui est sèche?
Ah non, on aime toujours la pluie. La pluie, c'est toujours le fun, ça rajoute toujours quelque chose et surtout, ça arrive à mettre en exergue à quel point les pilotes sont bons quand ils le sont. Un bon pilote, il va être capable de sortir son épingle du jeu quand il va y avoir de la pluie. D'ailleurs, on l'a vu, Norris qui sort des stands avec des pneus qui sont lisses, avec un Verstappen qui est juste derrière, qui repasse devant lui. On le voit, il essaye de se battre pour la tenir, il est en drift complète. On s'entend que n'importe quelle personne lambda, moi le premier, dans la voiture à la place de Norris, je vais droit dans le mur. Et c'est là qu'on voit que, du coup, on arrive à encore plus apprécier la qualité de pilotage de ces pilotes parce que les meilleurs sortent du lot et on le voit tout de suite et c'est là que les moins bons en général sortent du lot aussi, mais moins positivement.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Ferrari?
Pas leur Grand Prix. Clairement, ils ont eu vraiment un problème de réglage. En tout cas, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on espère parce que le développement va bien en général dans la saison. Au début, on croyait pendant les qualifications qu'ils avaient fait un réglage très très pour la pluie, ce qui était potentiellement le cas, en se disant ils ont parié sur la pluie, il n'y en a pas eu beaucoup en qualification, ils vont revenir en course. Et en course, ils n'étaient quand même pas là. Donc, un Grand Prix clairement à mettre derrière. Charles Leclerc a été très clair, c'est une fin de semaine à oublier et il faut passer au reste. C'est sûr que ça fait du mal quand on voit que le dernier Grand Prix, ils étaient premiers, et surtout Charles Leclerc qui a eu la victoire. Donc, circonstanciel du Grand Prix, en tout cas c'est ce que j'espère, et surtout bah, pour le classement des constructeurs, va falloir que Ferrari se reprenne pour qu'on ait une petite bataille au moins.
Hey Tom, parle-nous du podium, victoire de Verstappen,
mais on arrive à avoir un Norris et un Russell qui suivent derrière, donc on a la complète génération, ça c'est le fun, ça fait du bien, cette génération qui arrive enfin, qui arrive à détrôner des Alonso, des Hamilton, qui étaient l'année dernière sur le podium au Canada justement, là ça y est, ils arrivent à faire carton plein, en plus ce qui est le fun, c'est que les trois qui sont sur le podium ont été à un moment donné en tête du Grand Prix, donc ça prouve que ben, le fait d'être bon est récompensé, dommage pour Norris, qui bénéficie pas assez, et même d'ailleurs c'est lui qui empathie de la voiture de sécurité, c'est un peu dommage pour lui, même si on sait qu'il a débloqué son compteur de victoire à Miami, donc on se disait ça y est, maintenant il va pouvoir y aller, bon là, manque de chance encore une fois, on se dit qu'il y a quelque chose contre lui pour qu'il arrive jamais à gagner comme ça, mais on sait que ça va revenir, il a les qualités de pilote, il a le sang-froid, il y a tout qui est aligné, et en plus de ça, la monoplace s'améliore de Grand Prix en Grand Prix.
Septième position, c'est quand même pas si mal pour Lance Stroll.
C'est pas si mal, en effet. C'est toujours intéressant de regarder son coéquipier. Si je me trompe pas, Fernando Alonso est arrivé sixième, oui. Donc juste un cran au-dessus. Donc moi, j'aime bien. L'ordre est respecté, mais c'est l'ordre des Aston Martin qui s'en sortent plutôt bien. C'est quand même dommage, hein. C'est une régression par rapport à l'année dernière parce que Fernando Alonso était sur le podium. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Mais par rapport au début de saison, oui, c'est clairement une amélioration parce qu'en début de saison, ça partait plus pour essayer de se battre pour les points. Là, avoir une 6 et une 7e position, c'est des gros points pour Aston Martin.
Surtout pour Lance Stroll. Je pense que c'est son plus haut résultat au Grand Prix du Canada. Mais Tom, moi, j'avais une question parce que tantôt, tu parlais que quand c'est la piste est mouillée, c'est beaucoup de pilotage. C'est là qu'on voit les meilleurs pilotes. Mais il y a aussi beaucoup de stratégies. Je veux savoir, qu'est-ce que tu penses des stratégies qui ont été utilisées dans ce Grand Prix-là, notamment Norris qui est resté 2 tours de plus sur la piste avec la voiture de sécurité.
Ouais, ça a été... Ben, en fait, le problème de la voiture de sécurité, c'est qu'elle est arrivée un petit poil trop tard pour lui, ce qui fait que ben, il s'est fait avoir, en fait, il avait passé la ligne des stands pile au moment où la voiture de sécurité se déclare, et donc il peut pas rentrer au pit à ce moment-là. Tout le monde en profite pour rentrer derrière, et là, il se fait avoir. C'est vraiment dommage pour lui, mais ce qui a été intéressant plus tôt, c'est que lui, il était resté sur les intermédiaires, et c'est ça qui lui permet de ressortir quasiment en même temps que Verstappen. Le premier arrêt au stand est super intéressant, parce que lui, ça fonctionne très très fort, ses pneus ont moins surchauffé que les autres, il les a donc moins abîmés, et il est capable de capitaliser sur ça, et de faire 2 très bons tours. Alors, beaucoup diront qu'il est resté peut-être 1 tour de trop en piste et on ne saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que bah, dans ce qui s'est passé, c'était le fun parce qu'ils sont sortis tous les deux côte à côte au moment pour la première place. Mais c'est sûr que Verstappen est ressorti devant parce que lui, il avait ses pneus lisses qui étaient déjà chauds alors que Norris sortait de la voie des stands qui était, elle, pleine d'eau et en plus de ça, avec des pneus froids. Mais les stratégies étaient intéressantes parce qu'on a vu des choses osées un petit peu de tous les côtés. Tout le monde a une stratégie différente et ça devient intéressant de ne pas avoir tout le monde qui s'arrête en même temps et l'ordre qui change pas, même si c'est pas des dépassements en piste, ben quand on a des dépassements stratégiques, et là on a eu les deux, mais dépassements stratégiques restent quand même intéressants à regarder.
Voir Magnussen à la 4e position, ça t'a fait quoi toi?
Ah là là, génial. Pour de vrai, ça fait du bien, surtout qu'en plus, c'est une saison compliquée pour lui. Moi, ce que je trouve dommage, justement, ben là, c'est la stratégie de l'équipe. On le laisse pas capitaliser sur les pneus pluie, on le laisse pas en piste plus longtemps, parce que clairement, il y avait moyen de le laisser plus longtemps en piste, et au pire, il retombait graduellement, et après, on le faisait s'arrêter en même temps que tout le monde, et on essayait d'arriver à ce gap-là, mais il y avait le temps de voir, on l'arrête, il est encore... Alors, c'est sûr qu'il venait de perdre un petit peu de terrain. On l'arrête, je pense, quand il est en 5e position, mais il y avait encore le temps de laisser aller, il avait des tours, des temps autour surtout, c'est ça qui est important de regarder, ses temps autour n'étaient pas si mauvais comparé même à la tête du Grand Prix, à George Russell qui était en tête à ce moment-là, donc j'aurais vraiment aimé qu'on le laisse parce qu'au moment où on l'arrête, si je ne me trompe pas, il ressort 15e, quelque chose comme ça, et c'est vraiment dommage de ne pas capitaliser sur une avance en piste aussi grosse que celle-là, surtout pour Haas cette saison qui a besoin de marquer des points.
Hey Tom, c'est quoi la suite des choses pour la saison de la Formule 1?
Il va falloir surveiller les prochains Grands Prix. Si je me trompe pas, c'est en Espagne après, oui, dans 2 semaines. Donc, ça va être super intéressant de regarder ça parce que on est sur un Grand Prix de test. Donc, normalement, à peu près toutes les monoplaces fonctionnent dessus. Ça va permettre de confirmer ou d'infirmer la baisse de Ferrari, de voir si ça y est, ils sont de retour et que le Canada était juste circonstanciel ou si, ben, clairement, il y a un problème sur cette Ferrari. Il y a eu des changements ou des améliorations qu'on a amenées dernièrement qui fonctionnent pas parce que des améliorations, ça fonctionne pas toujours. Ouais. C'est ça qui est un peu triste. Donc, va falloir voir si ça risque d'être ça, mais normalement, toutes les choses devraient être sauvegardées et Ferrari devrait être capable de titiller un petit peu Verstappen et Red Bull pour le prochain Grand Prix. Et après, derrière ça, on s'en va en Autriche la semaine tout de suite d'après. Donc, c'est-à-dire dans 2 semaines, on a l'Espagne. La semaine d'après, on va en Autriche. Et en général, l'Autriche, c'est d'ailleurs la maison mère de Red Bull avec le Red Bull Ring. Normalement, Red Bull devrait gagner. Ça, clairement, je peux vous le dire à l'avance. Mais par contre, le prochain Grand Prix, les choses risquent de se brasser un petit peu. Et on serait même peut-être capable de voir deux Ferrari sur le podium, étant donné que Sergio Perez n'est pas capable de faire quoi que ce soit avec sa Red Bull en ce moment.
Il y a quelques questions qui rentrent par texto, pas rapport pantoute avec la Formule 1, OK? Fait que je te pose, okay, les, je te pose les deux questions. De un, quelqu'un, Stéphane, nous dit « Avant de laisser aller Tom, pouvez-vous lui demander comment le Français qu'il est voit la dissolution de la Chambre par Macron? Comment on vit ça en France? »
C'est une bonne question. Quand en plus, je l'ai vu hier soir après le Grand Prix et on en parlait un petit peu avant. Je me suis clairement dit, c'est le meilleur move ou le pire. En fait, clairement, il y a deux solutions. Soit Macron essaye de reprendre l'avantage parce qu'il n'a pas une majorité totale. Il n'a pas la majorité absolue en ce moment à la Chambre. Il a besoin d'avoir des alliances pour avoir cette majorité. Donc, il y a deux solutions. Soit il veut aller chercher plus de députés pour essayer de se sortir du lot. Et franchement, vu le momentum qu'il y a en ce moment, c'est un petit peu dangereux parce que le RN est très très fort, soit à ce moment-là, il veut essayer de griller le momentum du RN, le mettre au pouvoir en ce moment sans être en majorité absolue, parce que s'il reprenait le pouvoir à la Chambre, il ne serait pas en majorité absolue, et dans ces circonstances-là, il serait obligé de faire passer sûrement des lois avec les 49-3, comme ça a été fait par Macron avant, et donc ça pourrait soulever un petit peu le peuple à dire, quoi qu'il se passe, en fait, c'est le même problème, donc... peut-être pour les élections de 2027, ne pas se tourner vers le RN et plutôt se retourner vers le parti de Macron, parce que Macron ne peut pas se représenter, hein, c'est ça qui est important. Mmh. Donc ça rebrasse les cartes. C'est soit le meilleur coup, soit le pire coup politique stratégique qui y est. Je suis très curieux de voir ce qui va en être avec le temps, mais c'est possible donc qu'on voit, j'imagine pas Marine Le Pen, mais peut-être un Jordan Bardella, oui, Premier ministre, et ça, ce serait intéressant de voir, parce que Marine Le Pen ne grillera pas sa carte si elle veut un jour être présidente, d'être Première ministre et d'être impopulaire, c'est toujours le risque. Hein. Donc ça serait sûrement un Jordan Bardella, mais curieux de voir ce que le futur va nous donner.
J'adore. Meilleur ou pire move? On va voir.
Il n'y a pas le choix. C'est l'un ou l'autre.
Dernière petite question avant de te laisser aller. Il y a Fred qui demande par texto, en tant que Français, comment on dit, est-ce qu'on dit Seine, Seine ou quelque chose entre les deux? La?
La Seine?
La Seine, OK.
La Seine.
La Seine. Oui, okay. Oui, la Seine. Oui, oui, très juste. Ouais. Non, j'étais pas sûr. Je croyais que tu parlais des cents et j'allais dire, nous, c'est centimes. Mais je me suis rendu compte que j'étais un peu con.
T'as pas vu le film de Requin, le nouveau film sur Netflix?
Non, je t'ai vu le partager, mais je me suis dit, c'est Max et puis c'est Requin, fait que je relève pas plus que ça. Mais...
sous la Seine, c'est excellent.
Dis donc le titre du film comme du monde, Tom.
Sous la Seine.
Et sous la Seine. Voilà. Seine. Hey, Tom Perrin, toujours un plaisir. Merci, mon chum. On t'envoie ben de l'amour. Ben de l'amour.
Merci beaucoup. Ben, vous aussi. C'est toujours le fun de vous jaser, puis de jaser de F1. J'aime ça. Puis les auditeurs sont géniaux. Ils me posent des questions. J'aime ça.
Et voilà. Hey, merci, Tom. On s'en parle bientôt.
À bientôt.
Salut! Avant Rouge Pompier. Est-ce qu'il y avait quelque chose, je pense qu'il fallait jaser circulation avant de jaser avec Tom, puis j'ai oublié.
Ouais, c'est assez compliqué encore là, pour l'accès au pont Pierre-Laporte parce que accident du côté là, de Robert Clichenard entre l'Avin et le pont, justement. Deux voies de bloquées aux dernières nouvelles.
En musique, Rouge Pompier, vendredi à Rage Against le matin.